ici Radio RMC. Radio Marie-Christine.
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 1020.
L'accueil.
Bruxelles.
Elle diffuse des créations sonores réalisées par les habitants du quartier.
RMC.
RMC.
Radio.
Marie-Christine.
J'entends qu'est-ce que tu dis.
Radio Marie-Christine.
Radio Marie-Christine.
Bonjour, ici RMC Radio Marie-Christine, l'émission du mois d'avril. Je suis à côté de moi avec Élise qui va nous raconter où est-ce qu'on est écouté.
Bonjour à tous, nous sommes à la rotonde de l'Athénium. Aujourd'hui, vous êtes en direct pour l'émission d'avril de la radio Marie-Christine. Vous pouvez nous écouter en direct depuis la rue ou depuis notre site internet. On sera également en différé sur Radio Panique lundi prochain. On a pas mal de monde avec nous autour de la table. Je vais laisser Lionel présenter tout le monde.
On va commencer par Jean-Claude. Jean-Claude qui habite dans le coin, qui est un fidèle de la rotonde. Et l'équipe aussi qui est presque au complet. Donc nous avons un Louis, un Nizrine et Ould. Donc on remercie déjà pour l'accueil. Merci les amis. Comment ça va ?
Très bien. En tout cas, merci à vous. Et pour nous, vraiment, c'est un chouette moment de se retrouver avec tout le monde. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si Nizrine, tu voulais dire un mot.
Ben, merci à la Radio Marie-Christine d'être là. C'est la deuxième fois qu'on reçoit l'équipe et on est très 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 content et heureux d'être parmi vous.
Le plaisir est partagé.
Merci.
Voilà, bonjour tout le monde, c'est Louis. Je suis très content d'être parmi vous autour de cette table. C'est une grande première pour moi et j'ai hâte de voir la suite.
Et donc, maison de quartier rotonde, un public essentiellement de seniors, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient un agenda très chargé, les seniors. Hein, Jean-Claude, il a failli y avoir personne de la maison, quoi. Heureusement que tu es venu pour...
Voilà. Mais ils ont eu un peu peur. Hein.
Ah, c'est ça.
Ils ont eu peur. C'est que je crois qu'avec les yeux, parce qu'ils ne pouvaient plus lire les partitions,
d'accord,
parce qu'ils jouent bien la trompette. Hein.
C'est ça.
Et ils chantent aussi très bien, hein, lui. Hein. Lui, c'est plutôt une grosse voix, là, tu vois.
C'est ça. Et voilà, en fait, Jean-Claude, on parlait déjà de toi à la précédente émission, en compagnie déjà de Marie et de Margot de la Maison de la Création. Là, on a Marie avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour. Hein,
souviens-toi Marie, donc on avait écouté le premier lexique du Bruxellaire et tu nous avais préparé la suite en disant voilà, Jean-Claude va nous accueillir à la Maison de la Quartier Rotonde. Et donc voilà, c'est fait, on est ensemble en plateau, donc c'est super chouette. On accueille aussi Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Aussi habitant du quartier ?
Oui, à peu près, oui, à côté de l'église Notre-Dame de Laeken.
D'accord. Habitant de longue date, ça fait combien de temps que tu es à Laeken ?
Depuis le 3 juillet.
D'accord. Ah oui, c'est relativement récent.
Mais j'ai habité rue Émile Wauters et j'ai habité rue du Cloître aussi il y a des années.
D'accord.
Très longtemps.
Moi, j'habite là.
Ah ben voilà. Tu peux parler dans... Il ne faut pas avoir peur de parler dans le micro, Jean-Claude. Non, voilà. Et on a aussi Flore et Ahmad de l'école Bruxelles 2. Bonjour Flore.
Bonjour.
Bonjour Ahmad.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Bien, super. Ça a été pour nous trouver à la rotonde, le chemin ?
Oui.
Et donc, une école Bruxelles 2, vous pouvez un peu en parler ? Où est-ce qu'elle est située ?
Tu veux en parler, Ahmad ?
Oui. C'est à rue Molenbeek, à Laeken, tout près de rue Marie-Christine.
C'est ça. Donc, ouais, près de la rue Marie-Christine, où on nous entend actuellement en direct. Élise, de quoi on va parler un petit peu aujourd'hui ?
Alors, on va faire un retour historique sur l'Expo 58. On aura également l'occasion d'avoir un retour radiophonique sur une visite au théâtre de l'école Bruxelles 2. On va aussi avoir accès au lexique bruxellaire. On aura une fiction radiophonique de B118 qui va nous rejoindre par la suite. Et il y a également les élèves de l'école des devoirs du centre culturel de Jette qui va nous rejoindre plus tard. Voilà.
Chouette petit programme, je pense qu'on est parti pour 1h30, 1h45 d'émission. Je rappelle aussi que si vous voulez vous servir à boire, c'est 50 cents le café, 1,20€ les boissons fraîches. Donc il y a l'équipe de la Rotonde qui nous accueille, le bar reste ouvert. Bon, on peut parler un petit peu du lieu d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à la Rotonde en général ? Quand vous ne faites pas de radio, qu'est-ce qui se passe ici ? Jean-Claude, tu peux un peu nous raconter vos activités ?
Ben, il y a le bingo. Mm-hmm. On m'a demandé de remplacer parce qu'elle y en était absente.
D'accord.
Eh ben, j'ai hésité et j'ai quand même... J'ai fait, tu vois. J'ai fait plaisir en Esrine et tout ça. Mais on a rigolé comme des autres. Hein.
Allez. Ah, un premier mot en bruxellois est sorti. Non,
ouais, mais on a rigolé. Des fous, hein, des autres, des fous. Hein. Mais on a rigolé. T'sais, ben, je ne vais pas raconter le truc parce que ça a été un peu trop loin. Hein.
Ça a été un peu trop loin.
Oui, oui, oui. Mais les bruxellois qui étaient là, ils ont accepté et ils ont rigolé. Hein, tu vois, ça, tu sais quand ça rit ou ça ne rit pas. Hein.
Il y a beaucoup de, ça dérape quand même souvent à la rotonde.
Ouais, ouais,
est-ce
ouais,
que l'équipe confirme
ouais.
Pardon, voilà, en tout cas depuis 3 ans qu'on a commencé à travailler à la route et à Léopold, et c'est vrai que je confirme qu'à chaque fois qu'on a des activités, on met l'accent sur la convivialité, et vraiment voilà, on a de diverses activités, bon, Jean-Claude a cité les bingos, mais moi quand je pense à Jean-Claude, c'est surtout, je pense à la chanson française, et donc je pense à une activité qui lui tient à cœur, qui est les karaokés. Ah. Et je trouve que voilà, c'était, j'ai découvert vraiment des talents parmi les usagers. Je ne vais pas citer que Jean, enfin voilà, il y en a vraiment plein. Et voilà. Donc je travaille plus à Léopold, mais à la Rotonde, il y a des chouettes activités. Il y a aussi les théâtres, pour ne pas citer que. Puis bon, Nesrine va peut-être un peu...
On a aussi atelier bijoux. Mmh. On avait atelier scrapbooking, mais malheureusement, la bénévole, pour le moment, est malade. Mais bon, on va reprendre cette activité parce que nos usagers demandent beaucoup plus d'activités, d'ateliers. Et ils trouvent aussi l'endroit est génial.
Tout à fait.
Voilà.
On va décrire le lieu un petit peu. Qui peut un peu nous raconter, parce qu'on est à la radio, donc les gens ne voient pas où on est. Hould.
Alors, moi, j'ai, apparemment, l'historique, c'était l'entrée, la billetterie mm-hmm. pour l'Expo 58.
Moi, j'ai une autre version, mais ce n'est pas grave, on y reviendra après.
Alors, je ne suis pas un historique et vraiment, je suis nul. Et, en tout cas, une des choses que j'ai découvertes, mm-hmm. Parce que je suis dans mon histoire personnelle, je suis pas né ici, je suis, voilà, j'étais un primo arrivant. Et première chose qui me frappe à Bruxelles, c'est vraiment le bâtiment, etc. Et c'est vrai que grâce quand même... aux activités qu'on organise avec, par exemple, les ASBL, comme Lac Découverte, pour ne pas citer que, mm-hmm. on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de cette ville. Et je suis très content de commencer à travailler à Lac depuis 3 ans, parce que j'ai découvert beaucoup de... voilà, bravo, on a fait des collaborations avec la Maison de la Création.
Oui, on s'amuse bien, on a d'ailleurs été enchantés par l'accueil ici, lors des ateliers radio, hein, qui date d'il y a 2 semaines. C'est peut-être une petite parenthèse pour dire pourquoi on est ici. On a commencé à se voir il y a 2 semaines autour d'ateliers radio avec la Maison de la Création en Seine-Gare. Marie, tu peux peut-être un peu raconter quelle était l'ambiance lors de ces 2 ateliers. Je pense que tu en as fait un des deux. Puis ouais. Margot, t'avais.
Ouais. Moi, j'ai fait le premier atelier avec Jean-Claude et ses compères. Et c'était très chouette, très bonne ambiance. Mmh. C'était la bonne rigolade. Et du coup, ça donnait un chouette aperçu de cette langue, le bruxellaire. De le faire revivre via tous ses souvenirs et tous ses moments de rire. Donc voilà.
Exactement. Et donc ça fait partie des sujets qu'on abordera aujourd'hui. On va commencer à, autour de l'Expo 58, vu qu'en effet, comme l'a dit Hould, on est dans un des lieux emblématiques de l'Expo. En fait, certains disent que c'était l'ancienne billetterie. D'autres disent que c'était le pavillon de Loge Expo. Loge Expo, en fait, orientait les visiteurs de l'Expo 58 pour trouver un hôtel, du logement, etc. Et je vais vous poser une petite question. À votre avis, combien il y avait de visiteurs lors de l'Expo 58 Donnez des chiffres au micro, de préférence. Combien de visiteurs?
Quelques millions.
Quelques millions pour Jean-Louis. Ouais.
500 000.
500 000. Hamad, à ton avis, une expo, il y a eu combien de visiteurs?
2 millions. 2 millions.
2 millions, ouais. D'autres chiffres, d'autres estimations?
Moi, je veux dire quand même 1 million. Hein,
1 million.
Même, hein.
Bah, en fait, c'était largement supérieur à ça. C'était ouais. 40 millions ah, voilà. d'entrées enregistrées. 40 millions. Pourquoi? Parce que le monde entier se trouvait à l'époque sur le plateau du Heysel. Ce qui voulait dire, en effet, qu'il ne ressemblait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Et on peut en déduire que ce lieu était trop petit pour accueillir autant de visiteurs. Donc voilà, c'est mon hypothèse. Mais on va déjà trop loin. Ce que je vous propose, bah, comme le disait Hould, on est à côté du symbole de Bruxelles, l'Atonium. Ben, c'est d'aller écouter un petit peu ce que racontent les riverains de cet atonium. C'est parti, premier extrait.
Ici, il y a l'atomium.
L'atonium.
Oh, l'atonium, voilà, il est là.
Il y a 2000 feux, là, derrière.
Mais elle a changé. Enfin, maintenant, elle a changé, je trouve. Ah, alors là, ça, c'est l'image de l'expo, c'est l'image classique. On regarde vers les grands palais, il y a l'atomium et il y a le téléphérique.
Des millions de caméras, sans compter les nôtres, ont mitraillé l'atomium.
Un jour, je suis montée aux dernières boules de l'atomium.
Atomium mystique.
Le soir tombait, vers 4h30, 5h, et on avait une perspective sur les palais.
Atomium bucolique.
Et ça, c'est magnifique.
Atomium bavard.
Donc je ne me souviens pas très bien si on a été à l'Atomium pendant l'Expo 58 parce qu'il y avait toujours beaucoup
Atomium
de monde.
Atomium classique.
Et on l'a visité plus tard dans les années 60.
Je suis montée sur un escalateur avec mon école. Il y a un moment où vous montez dans une boule, il y a plein de lumière et de musique.
Atomium au miroir.
Dans la dernière bulle, de loin, il y avait un microscope pour voir... un peu à quoi ça ressemble Bruxelles. Et un moment, quand la première boule, il y a un peu d'informations.
Et les gens confondent souvent en disant que c'est un atome de fer, alors que c'est une molécule de fer cristallisée, agrandie des milliards de fois. Sur le tableau de Mendeleïev, c'est le chiffre atomique numéro 27 avec 27 protons. D'ailleurs, je suis VIP à l'atomium, c'est-à-dire que tout le monde me connaît là. Et souvent, j'y vais, à un moment donné, j'y allais tous les jours. Et alors, je fais des selfies pour les gens s'ils ont envie de se faire photographier.
Vous savez, c'est une époque où on photographiait comme maintenant, à tour de bras.
Et voici l'album de famille.
Vous vous souvenez?
Mon fils, ça doit avoir 5-6 ans. Il y avait en bas une fontaine et il est photographié là.
Ôter à un touriste son appareil photographique et il renoncera probablement à voyager. Les humains qui n'ont pas atteint l'âge de raison se servent encore de leurs yeux.
60 ans, je l'avais sous mes fenêtres quand j'étais gamin et j'avais été la première fois avec ma grand-mère sur le chantier de l'atomium, donc pour la construction.
Mon parrain, il a fait la construction de l'atomium. Et quand on disait qu'il fallait vraiment ne pas avoir premièrement le vertige, et c'était vraiment des acrobates, hein, des acrobates. Et comme on n'avait pas beaucoup d'alpinistes qui faisaient l'alpinisme en Belgique, non, ils disaient que c'était très très dangereux à ce moment-là. Mais enfin, oui. Mais souvent, on rentrait à la maison, les enfants regardaient ma tête et disaient « il y a eu un accident » et souvent, des gens qui tombaient, beaucoup de morts, hein. Il y a eu beaucoup de morts à l'atomium.
Je crois que l'atomium devait être démoli 6 mois après. Et Dieu merci, là il a résisté. C'était entièrement payé par les industries sidérurgiques belges, ça, l'atomium. C'est eux qui l'ont payé.
L'atomium est resté alors qu'on voulait la détruire après 10 ans. Mais bon... La Belgique s'entoure. Sans atomium, c'est plus la Belgique. Hein.
Bon. Retour en plateau pour RMC Radio Marie-Christine, notre émission du mois d'avril, en direct de la Rotonde, toujours en compagnie d'un plateau qui peut faire un peu de bruit, faites parler de vous. On vous écoute, ouais. Voilà, c'est pas l'ambiance de l'Expo 58, mais on s'en rapproche tout doucement. On vient d'écouter en fait une création sonore donc, qui est un extrait d'un sujet plus vaste sur l'Expo 58, donc une fresque collective. On a écouté les voix des seigneurs de la maison de repos Hazel, donc on les salue, c'est nos voisins, ils sont vraiment juste à côté. Les voix de Barbara, qu'on salue également, du comité Triangle Uba Sobieski. Des enfants de Lille aux enfants donc, de la cité modèle. Et en fait, on a mis sur la table ces appareils. Je me tourne plutôt vers les seniors. Est-ce que vous connaissez ce dispositif, Jean-Claude, vous pouvez reprendre vos micros, hein, comme ça on vous entend.
Oui, c'est le système Viewmaster.
D'accord. Tu peux un peu expliquer ce que c'est aux nouvelles générations?
Ce sont des disques qu'on vendait. D'ailleurs, on pouvait visiter tous les pays du monde grâce à ça, grâce à des disques. Et bien, on vendait ça chez les photographes en général et dans les grandes surfaces. Donc il y avait des pochettes avec des disques, donc il y a eu plusieurs pour l'Expo 58, il y avait les parcs zoologiques d'Afrique, etc. On pouvait visiter le Japon également, enfin, on pouvait visiter le monde entier avec ces appareils-là.
Toi, tu l'as fait alors, quand tu étais plus jeune?
Oui, j'en ai eu toute une collection de disques de Viewmaster.
Et je propose à Flore et à Matt de prendre celui qui est en face de vous, donc un Viewmaster rouge. pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Allez-y. Florian, il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes autour du plateau d'ailleurs. Je remarque que je suis un des seuls qui n'a pas de lunettes, avec Élise et Louis. Alors Flore, qu'est-ce que tu peux voir à l'intérieur? Tu peux nous décrire en direct?
Je vois un grand bâtiment, mm-hmm. vitré, une fontaine et du monde devant cette fontaine. Et d'ailleurs, les gens devant cette fontaine prennent des photos.
Ah ben voilà, on l'abordait justement dans le sujet. Et ce que Flore a décrit, c'était le pavillon du Luxembourg, en fait, qui se trouvait juste derrière nous. Donc quand on regarde vers l'Athénium, là où il y a des arbres actuellement, c'était ce pavillon qui était présent. Jean-Louis, est-ce que tu veux nous décrire ce que tu vois dans ce Viewmaster?
Je vois l'Athénium ici.
Hein. Oui, l'Athénium.
Je vois l'Athénium, oui, des visiteurs et le téléphérique.
C'est ça. Et donc ça, c'est la vue qui va vers l'Athénium. Et est-ce qu'à la gauche de l'image, il y a quelque chose qui marque ton attention? Une sorte de poteau, peut-être?
Oui, c'est ça. Un grand poteau avec une... Oui, c'est ça. Et je crois que c'était le pavillon du Congo de ce côté-là.
Exactement. On a affaire à un expert autour de nous. C'était le pavillon du Congo. Donc on va en parler ensuite. Mais je voulais d'abord voir avec vous, Jean-Claude, Jean-Louis, vos mémoires de 58. Jean-Claude.
Eh ben, moi, j'ai été à l'école Place Gaucheret. Mm-hmm. Hein, et avec l'école, on est venu à l'Athénium. J'avais 12 ans. C'était superbe. Hein. Ça, c'était... Et la Belgique, elle devrait rester comme ça. Hein. Maintenant, elle est foutue, hein, la Belgique. Hein. Allez, la grande place, elle tient encore bon. Mm-hmm. Hein. L'Athénium tient bon. Rue Marie-Christine, il y avait 3 cinémas. Le Wagram, les Christine et le Rio. Ils sont pas... Capote.
C'est sûr que les temps ont changé. Tu as connu le Bruxelles de l'Expo 58.
Ah oui, ça c'était merveilleux.
Hein. Festif. Hein. Est-ce que tes souvenirs, toi Jean-Louis, ça rejoint un peu ceux de Jean-Claude? C'était quoi tes souvenirs, toi, de l'Expo?
À l'époque, j'y suis allé tous les jours.
Ah oui.
Tous les jours. Et j'avais un grand plan dans ma chambre. Et à chaque fois que je vais visiter un pavillon, je biffais, etc. J'ai tout visité.
Incroyable. En
fait. Également, les pavillons industriels, etc., à Côte d'Or, etc. Et, tout. Et dans beaucoup de pavillons où il y avait des boissons typiques comme les pavillons d'Amérique latine, mm-hmm. j'ai goûté aussi également.
T'as fait l'intégrale?
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Si tu devais épingler 2-3 choses incroyables que tu as vues en 58.
Ben, il y avait le pavillon russe et le pavillon américain qui se faisaient face, évidemment. Il y avait les dernières technologies aussi, les satellites et tout.
Sputnik,
entre autres.
Il faisait un bruit particulier, c'est ça?
Oui, bip, 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 bip. Voilà. Et la chaîne Laika.
Éteignez vos GSM, s'il vous plaît.
La chaîne Laika aussi, en photo, qu'on avait envoyée dans l'espace.
Exactement.
Et alors... Le pavillon américain aussi, hein, qui était assez explicite, disons, de la technicité américaine de l'époque. Et tout ça existe encore. En fait, le pavillon américain existe encore. Hein, ça a été tout un temps des studios de la VRT, je
tout
crois.
Tout à fait, oui.
Et tout le reste a pratiquement disparu, hein, c'est certain.
Et pour les nouvelles générations, alors, est-ce que, par exemple, Louis... Est-ce que tu soupçonnais cette histoire autour de l'œil de Hazel? Est-ce que tu soupçonnais en fait qu'autour de l'Athénium, il y avait autant eu de choses, on va dire?
Absolument pas.
Voilà.
Absolument pas. J'avais comme image uniquement la rotonde, je ne savais pas qu'il y avait autant d'édifices autour de cette Expo 58. C'est pour ça que je suis content d'être là et d'apprendre des aînés de ce qu'ils ont vécu auparavant. C'est enrichissant pour nous tous autour de cette table, je pense. Je suis surpris. Je suis surpris.
Ahmad, de ton côté, est-ce que tu savais qu'il y avait cette histoire autour de l'Athénium, on va dire?
Non, j'apprends tout pour la première fois et je suis heureux d'être parmi vous.
On continuera à regarder ce qu'il y a dans ce Viewmaster. Mais je voulais aussi poser une question encore à Ahmad. Après, on va aborder. Est-ce que toi, c'est quoi le Hazel pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu vas au Hazel pour faire quoi? Les jeunes générations, qu'est-ce qu'elles font au Hazel?
Ici, au parc?
Ouais, au parc, etc.
On sort juste avec l'école, des fois on court là-bas,
okay.
Sinon je ne vais pas tous les jours.
Un lieu de sport. Louis, tu voulais réagir encore?
Ah ouais, moi je voulais revenir par rapport à l'Expo 58, comment ça se fait que ces bâtiments ont été détruits?
Peut-être que Jean-Louis, tu peux expliquer, je ne sais pas si...
Mais la plupart étaient dans des constructions qui n'étaient pas destinées à durer, hein, donc il y avait beaucoup de tapes à l'œil, beaucoup de plâtre et beaucoup de bois, donc ça n'aurait pas résisté autant. Hein. En fait, ce qui a résisté, c'est le pavillon... Qu'est-ce qu'il y avait dans ce pavillon? Le pavillon du bois, je crois, qui a été transformé.
Les ardoisiers, là, qui a été transformé en la ruche, je pense.
C'est ça, la ruche.
Jean-Claude, tu as été mangé là-bas?
Oui.
J'hésite.
Ça n'a pas encore été à la ruche.
Et alors, il y avait tout un lieu festif dont on n'a pas encore parlé. Il y avait la Belgique joyeuse aussi.
Oui, la Belgique joyeuse.
La Belgique joyeuse, dont il ne reste pratiquement plus rien non plus.
Non, mais vous avez connu peut-être, c'était à l'époque, on allait manger là-bas. Moi, les premières fois que je venais à Bruxelles, par exemple, je venais voir des salons au Heysel, salon du jeu vidéo, et on allait dans ce décor chercher un kebab. Et on ne savait pas du tout, en fait, non plus, que c'était les restes de la Belgique joyeuse. Ah, merci Nisrine. Nisrine nous sert des petits morceaux de gâteau, donc c'est un live culinaire en même temps. Donc voilà, ces archives, on va continuer à en parler avec les générations. Jean-Claude.
Dis Lionel, mon père, il a travaillé comme cuisinier à l'Atomium, la dernière boule. Allez. Et quand il y avait du vent très fort, ça bougeait, hein, les pôles bougeaient. Hein,
hein. Et tu allais de temps en temps le...
Non. Je n'en ai pas. Et alors, Luc Varenne,
le présentateur
Luc Varenne de football,
ouais, tout à fait,
ouais. Et il venait manger souvent.
Ah ben voilà.
Tu vois.
Donc, on a tous une histoire avec l'Atomium, hein, que ce soit Hould, qui symbolise, ben voilà, en tant que primo-arrivant, comme tu as dit, c'est un symbole de Bruxelles. Jean-Louis, Jean-Claude ont vu cet Atomium se construire, littéralement. Voilà. Et voilà, c'est un peu notre totem de l'émission. Malheureusement, on va passer d'un totem à un autre parce qu'il y avait aussi un aspect un peu plus dur en fait, de l'Expo 58 sur lequel on met moins les projecteurs. Et c'était le pavillon du Congo, hein, Jean-Louis, tu l'as abordé. Il y avait notamment un village indigène. Et donc maintenant, le deuxième extrait qu'on va passer tourne autour de ce village. C'est parti.
2000 journalistes câblent à leurs millions de lecteurs. Vous pouvez venir. Les Belges ont gagné leur pari. Leur exposition est prête.
Leur exposition est prête et elle est formidable. Stop. Le pavillon le plus formidable est celui de notre pays. Stop.
Les Belges se divisent en flamands et en wallons. Stop. Il y a aussi des enthousiastes de petite taille et de peau noire que l'on appelle les troubadours du roi Baudouin.
À gauche, la section africaine, enfin congolaise, ou plutôt Rwanda, je crois.
À gauche, je crois qu'il y a des pavillons d'Afrique, de Congo belge.
Au pavillon du Congo belge et du Rwanda Urundi, qui donne un aspect très imagé de ce qu'est notre colonie.
Le côté congolais, là, qui était tout en bas, ça c'était intéressant.
Ah oui, oui. Ah oui, ça avait fait beaucoup Ah oui, à cette époque-là, ça... Les gens ne sais pas.
Il y avait des gens qui venaient dans ce village-là. Des gens de couleur, hein. Oui, oui, il y en avait un. Hein? Un petit village, là, mais je ne me rappelle pas lequel. Hein? Le nom, je ne me rappelle pas. Oui, il y en avait un. Hein? C'est triste à dire, mais c'est comme ça.
À ce moment-là. La plupart disent que c'était dans les mœurs, mais c'était tout comme au pavillon congolais. Beaucoup de gens jetaient des cacahuètes, ce qui n'est pas beau. Mais on ne s'en rendait pas compte, on était petits. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
Et voilà, retour en direct à la Rotonde pour notre émission du mois d'avril de Radio Marie-Christine. On a écouté des pages plus sensibles, on va dire, de l'Expo 58. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qu'on a écouté? Vous pouvez lever la main, vous manifester. Jean-Claude. Oui.
Pour moi, c'est une autre époque, ça.
Tout à fait. Heureusement, d'ailleurs.
Voilà. Hein? L'être humain évolue, tu vois. Mm-hmm. Et c'est bien qu'on évolue toujours. Tu vois, maintenant, en Belgique, combien de nationalités qu'il y a? On évolue, tu vois.
Tout à fait.
C'était une autre époque, ça. Il faut pas... C'est passé. On peut refaire l'histoire, mais ça ne sert à rien.
On va rebondir sur les nationalités.
Les amis congolais sont bien reçus maintenant en Belgique. Hein. D'abord, ils viennent. Oui. Ils viennent en Belgique. Et je dis que les amis congolais, voilà.
On peut aborder quelles sont les différentes origines autour de la table, peut-être, qui vient d'où, poser comme ça. Moi, je viens de Belgique, voilà. Assez banal. On fait le tour, Élise.
Je vais continuer dans ta banalité, mais c'est aussi de Belgique.
Ok.
Pour sortir du lot, je viens de Belgique.
Ok, Belgique 3, reste du monde 0.
On va vers l'Asie, je viens de la Syrie.
De la Syrie, voilà. Louis ?
Je suis d'origine congolaise.
Congolaise.
Moi, je viens de l'Algérie.
Ok.
Et moi, je suis d'origine mauritanienne.
J'allais le dire, voilà.
Moi, je viens de France.
Et Jean-Louis ?
Je suis belge également.
Attention, est-ce que Jean-Claude est belge, à votre avis ? Petit piège. Question piège. Question piège.
C'est un zinequin.
C'est un zinequin. Jean-Claude ?
C'est un zinequin.
Ma maman, luxembourgeoise, et mon père, belge.
Voilà, un mix. Mais,
dans les Gaulois, il y a un peu de tout. Hein.
Tout à fait, hein? Tout à fait. Et Thomas ?
Un belge. Hein.
Un belge, comme ça on a entendu la voix de notre technicien. Alve. Alors... voilà, on a écouté, en effet, comme a bien dit... Oui.
Alvin Alf aussi, hein. Mon père était flamand du côté de l'Isère et ma mère était française.
C'est ça. L'Expo 58, c'était ça. C'était le monde réuni dans un mouchoir de poche du Heysel. Certaines nationalités avaient un peu leur autonomie, d'autres, comme le Congo, étaient encore sous la tutelle coloniale pour quelques années seulement encore. Et donc voilà, on voit ce contraste. Aujourd'hui, on revit un peu l'esprit de 58 finalement, on est tous... un pied d'égalité autour de cette table, c'est une très bonne chose. Et je voulais voir avec Flore si tu avais un lien à tisser justement avec ce qu'on a fait ensemble donc, dans ta classe à Bruxelles 2.
Mais justement, nous avons été voir une pièce de théâtre qui abordait la colonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'extrait qu'on a entendu, les gens sont contents de les voir. Ah, c'est merveilleux, j'ai même entendu que les enfants jetaient des cacahuètes, etc. Et dans la pièce de théâtre qu'on a vue également, on découvre la propagande de la colonisation à travers les yeux d'une enfant. Donc une comédienne, Agnès Linbos, qui reprend les lettres de son père, qu'elle a lues à travers ses yeux d'enfant. Et comme on va le voir dans le podcast qu'on va écouter, ces lettres sont vraiment révélatrices de cette propagande.
Tout à fait. Donc voilà, en deux mots, c'est la classe de Flore. Malheureusement, Ahmad était absent ce jour-là, le jour où on a été au spectacle, je pense. Hein.
Oui, je n'ai pas vu. Mais...
Toi, tu as participé aux ateliers qu'il y avait autour. Et donc, cette classe a été voir un spectacle et ils en ont fait un podcast qu'on va écouter ensemble. C'est parti.
On va regarder un théâtre.
C'est une lettre.
Ça fait une
lettre pour mon père.
Ça fait une
lettre.
Le titre, c'est les lettres de mon père.
Ça parle d'en fait d'une famille.
En fait, c'est comme on le dit.
De Belgique qui sont allés jusqu'à.
Arrête de couper les mains aux gens.
Les lettres de mon père.
Les lettres de mon père.
Un podcast.
Réalisé par les 5G.
De Bruxelles 2.
En 1959, la famille Limbos habite au Congo, qui est encore une colonie belge. L'année suivante, c'est l'indépendance et les parents renvoient leurs enfants en Belgique.
Mes très chers enfants,
chez leur oncle curé.
Écoutez bien ce que vous disent oncle Pierre et madame Jadoul.
À l'époque, âgée de 8 ans, Agnès Limbo a vécu cet épisode comme un abandon.
Priez pour les pauvres petits Congolais.
Il y a combien d'élèves ?
Bonjour à tous, nous sommes arrivés au théâtre. Rentrons dans un hall. Il y a des lumières sur le plafond. On va aller rentrer dans la salle. Donc on monte des escaliers. Là, comme vous entendez, il y a d'autres classes, donc d'autres écoles. Il y a plusieurs rangées de sièges rouges où on peut s'asseoir pour regarder la scène. Alors, devant moi, je vois un fauteuil rouge avec une poupée dessus. Donc, c'est la marionnette.
Quoi ? Une marionnette ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Je suis choqué.
Ben oui, on en avait discuté en classe.
Vous vous souvenez pas, hein, madame de Volder, on avait parlé.
Tu dormais ou quoi ?
Qu'est-ce que tu penses du fait que tu vas voir du théâtre de marionnettes ?
Je suis assez impatiente parce que c'est un peu surprenant, quoi.
Tout d'abord, d'apparence, on peut se dire que c'est pour les enfants. Mais je pense que ça peut surprendre et c'est pour tout type de catégorie d'âge, quoi.
Bienvenue à la montagne magique. Je vous souhaite un très bon week-end.
Oh ben.
palmier, c'est pas ici. Le palmier, c'est là-bas. C'est très très loin. C'est ailleurs. Ici, c'est... un pauvre petit pommier. 1960. 30 juin, indépendance du Congo. 1er septembre, rentrée des classes en Belgique. Papa, maman, Léopoldville, leurs 5 enfants à Donjolbert. Et là, c'est mon fauteuil.
La femme de 70 ans, qu'elle est devenue en dialogue avec la fillette qu'elle était.
J'ai 8 ans.
Et porte un regard différent sur les événements d'alors.
Comme toutes les semaines, une lettre de mon père. Par avion. Ernest, notre sentinelle, nous a montré un livre illustré sur la vie de Jésus. Ernest nous a expliqué que ce n'était pas juste que ce soit les Noirs qui doivent souffrir, parce que ce sont uniquement les Blancs qui ont été méchants envers Jésus. Je dois vous quitter maintenant, en vous recommandant encore d'être très sage.
Vous avez écouté un spectacle pendant plus d'une heure, maintenant c'est à vous de parler.
Rencontre avec Agnès Limbos.
Je peux parler bien fort ?
Comment vous êtes entrée dans le fauteuil ?
Non, c'est un ami qui s'appelle Val Massé, qui fabrique des trucages pour le théâtre et pour le cinéma. J'ai dit j'aimerais bien un fauteuil où je suis engloutie, quoi, tu vois. Et il a fait un trucage. Si tu veux, après tu viens, je te montre. Oui ? Quand elle a commencé à l'écrire ? En fait, moi j'avais toujours eu les lettres de mon père, mais pas toutes. J'ai appelé mes frères pour savoir s'ils avaient encore, eux, des lettres. J'ai tout rassemblé, il y en avait 46. C'est exactement mot pour mot les lettres de mon père. On n'a pas changé une virgule. C'est vraiment les vraies lettres, quoi. C'est un peu comme un documentaire, en fait, quelque part. Hein? Il n'y a rien qui est inventé ici. Hein? Oui.
Vous dites avoir des frères, enfin vous êtes une fratrie. Oui. Est-ce que vous pensez que votre fratrie, elle a été autant impactée que vous par cette situation ?
En fait, pas du tout.
Ah, c'est vrai ?
Enfin, d'une manière, en même temps, ils ne l'ont pas exprimé. Hein. Eux, pour eux, c'était la plus belle année de leur vie, en fait, chez l'oncle Pierre. Une année formidable.
Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous faites sur ces scènes de théâtre ?
Alors, il y en a un qui vit au Sénégal, l'autre, il vit en Amérique, donc ils ne l'ont pas vu. Mais mon plus jeune frère, lui, il l'a vu, il est venu à la première ici, et il est très touché, quoi. Il m'a dit, on te reconnaît. Et il est touché, parce qu'il retrouve vraiment, quelque part, ça l'éclaire sur une autre manière de voir cet épisode de notre vie, quoi. Oui ?
J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un livre de votre histoire ?
Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que on a fait un livre sur mon travail plutôt, tu vois, et je parle de ça. Je parle de l'importance de la biographie pour construire des spectacles. Souvent, on part de ce qu'on est nous, voyez-vous. Et donc, c'est mon histoire. Donc, la petite marionnette, c'est moi quand j'avais 8 ans. Et donc, chaque fois, je me remémore cette période de ma vie, tu vois, où quand même, j'étais pas mal traumatisée. Hein. Moi, j'avais peur que mes parents meurent et qu'ils ne reviennent jamais. C'était ça le truc, tu vois. Donc le ressenti, c'est... voilà, j'aime beaucoup jouer ce spectacle et partager ça avec vous, cette histoire-là, qui est mon histoire, mais je pense que ça peut être l'histoire de beaucoup d'enfants qui vivent des conflits et où les parents sont éloignés, quoi. Hein. Il y avait encore une question par là, je crois. Non ?
Merci beaucoup.
Merci de votre écoute, en tout cas. C'était super. Merci.
On va sortir maintenant, ça va ?
Voilà, nous venons de terminer la pièce de théâtre. Il y a eu une session questions-réponses.
Les réactions du public.
Tu m'entends ou pas ?
Je peux te poser
questions ?
Tu peux
poser des questions ?
Oui.
Ok,
j'ai dormi la main, mais j'ai dormi pendant
le temps. Ça veut.
Toi ?
Manu n'a pas dormi. Attends.
Ouais, bonjour, comment t'appelles ?
Je m'appelle Mohamed.
Est-ce qu'il y a une pièce en particulier qui t'a touché ?
Elle a commencé avec le papillon, puis après elle a réagi. C'était un peu triste de ce qu'elle avait vécu. C'était difficile, du coup, il m'a vraiment touché, quoi.
Ok.
Merci beaucoup, Mohamed.
Vous-même, vous venez de le voir. Elle nous a fait voir la petite fille qui était en elle à cette époque. Vraiment, c'est touchant.
Être une jeune fille qui s'est fait abandonner, on va dire, par ses parents, c'est très compliqué. Et je compatis totalement avec elle.
Alors moi, j'ai été très agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à quelque chose de pareil quand j'ai entendu parler d'un spectacle de marionnettes. Mais j'ai bien apprécié. Je trouve qu'il y a eu un véritable travail derrière. On n'a eu affaire qu'à deux acteurs. On appelle ça des acteurs. Qu'à deux acteurs. Et pourtant, on a eu une scène très, très enrichissante, très, très chouette. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Chantal.
D'accord, Chantal, est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène ? Est-ce que vous en avez tiré des morales ?
Ah, ce spectacle ?
Oui.
Alors, Agnès Limbaud, c'est vraiment, ben voilà, c'est le big boss du théâtre d'objets, et c'est vraiment intéressant. Et ce qui est percutant, des fois, pour les jeunes, c'est le second degré. Ça étonne, je crois. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je trouvais que c'était un peu long. Et je trouvais ça intéressant après le retour. Enfin, ce que vous avez vécu, là, les questions, c'est presque à chaque fois qu'il faudrait avoir ça.
Ben, ça va, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions ? Quelqu'un a d'autres questions à poser à madame ?
Non, pas du tout, je suis clown.
On peut applaudir, vous pouvez vous applaudir.
On est les meilleurs... Oulala ! On est les meilleurs journalistes, voilà, une bonne équipe.
On a fait une très très bonne équipe, très très enrichissante,
super
très
douée.
Qu'avez-vous pensé du spectacle, madame de Volter ?
J'ai apprécié ce spectacle parce que je me suis sentie proche de la comédienne. Agnès Lindbos ne jouait pas un personnage ou une histoire inventée. Elle nous pose ses lunettes d'enfant sur les yeux, tout en choisissant savamment les extraits des lettres de son père. L'angle de vue choisi nous montre bien la propagande qui était en marche à cette époque, surtout auprès des enfants. Au-delà de ce regard posé sur cet aspect de l'histoire, Agnès nous livre aussi ses craintes et ses traumatismes d'enfance, en usant finement d'un symbolisme profond.
Faites une bonne action chaque jour.
Les lettres de mon père.
Les lettres de mon père. Un podcast réalisé par la classe des 5G.
De Bruxelles 2.
Dans le cadre du concours Andromaque.
Avec le soutien du SCES et de Radio Marie-Christine.
Et la participation de...
Alassane Mohamed.
Emel. Foura. Ajar.
Kélir.
Imen.
Loubna.
Mohamed.
Nazaria.
Niman.
Rian.
Safa.
Samir.
Yasmina.
Madame de Volder.
C'est troublant, non ?
Retour en direct pour notre émission Radio Marie-Christine. Je propose d'applaudir bien fort la classe de 5G qui a réalisé ce podcast. Bravo à vous. Bravo. Flore et Amad sont avec nous en plateau. Et alors, vous êtes contents du résultat ? Qu'est-ce que vous pensez là de ce podcast ?
Moi, je suis très fière de mes élèves. À l'origine, ce projet, on l'a lancé pour un concours. Et ils ont vraiment été au bout des choses. Et j'ai même découvert certaines facettes de mes élèves que je ne soupçonnais pas du tout.
Tout à fait. Amad, tu peux un peu nous raconter. C'était pas le premier atelier radio que tu faisais, donc c'est ramener la radio en classe. Est-ce que c'est intéressant pour toi qu'on vienne avec des enregistreurs, des micros ?
Oui, et la plupart de la classe, ils ont aimé ce qu'on a fait. Ils étaient fiers, et je suis fier de moi-même aussi. Et je tiens à vous remercier, monsieur Lionel.
Avec plaisir.
Merci beaucoup et j'espère qu'on va faire encore après.
Ah ben venez, on est là pour ça.
Parce que la classe, elle a aimé, c'était trop bien, merci beaucoup.
On va continuer. Et ben demain, en fait, il faut envoyer ce podcast pour le concours Andromaque, c'est bien ça ? Andromaque, donc voilà, on a encore un petit peu de travail pour envoyer ça, mais on croise les doigts parce que si vous avez un des prix, ben pourquoi pas acheter du matériel radio avec ? Vous en pensez quoi ? Oui ?
Bienvenue, la classe, elle voulait faire une sortie avec.
Ah voilà, c'est ça. Il y avait l'idée de commander de la nourriture aussi, de manger dans la cour. Mais invitez-moi dans tous les cas. Ça
bien
va
sûr, vous êtes le bienvenu.
On est aussi avec Marie, donc Marie qui accueille parfois des scolaires en fait à la maison de la création. L'intérêt d'avoir des classes devant un spectacle de théâtre, c'est lequel pour toi ?
Déjà, c'est important pour nous de permettre aux enfants d'avoir accès au théâtre dans leur quartier de manière facile, qu'ils puissent venir éventuellement à pied depuis l'école. Et puis c'est aussi souvent très intéressant d'avoir justement les retours des jeunes, des enfants après les spectacles et qu'ils puissent échanger avec les artistes. C'est aussi intéressant pour, tant pour les artistes que pour nous, que pour les enfants. C'est, par exemple, voilà, je prends un exemple, la semaine dernière on a eu une pièce de théâtre qui était en début de création et du coup c'était très important pour la comédienne de pouvoir entendre ce que les enfants avaient à dire, de comprendre voilà, ce qui marchait, ce qui marchait pas dans leur pièce. Et moi, je suis toujours très intéressée et étonnée de voir à quel point les enfants captent parfois des petites choses dans le théâtre que nous, on ne voit pas du tout. Donc voilà, pour nous, c'est toujours des super chouettes moments. Et c'est aussi l'occasion de parler de sujets importants, de sujets de société, sous un format, voilà, qui est le format du théâtre, de la scène, etc. Et de découvrir des nouveaux métiers, les métiers de plateau, de scène, de comédien. Donc voilà, c'est tous ces intérêts-là.
Ce qu'Amad nous avait dit en classe, c'est que tu n'avais pas assisté au spectacle, mais en écoutant le podcast, ta réaction, c'était quoi ?
J'avais envie de le regarder et ça m'a donné envie de regarder les spectacles.
C'est ça. Et aussi, je crois que, Flore, on est d'accord avec Marie dans l'intérêt d'échange après un spectacle. Tu peux peut-être un peu...
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité, tant pour les élèves que pour l'artiste, mais également pour le professeur.
Tout à fait. Et on est aussi avec Élise, stagiaire en art du spectacle, à Grafouilly, et étudiante en art du spectacle. Donc, on voulait avoir son regard, est-ce qu'on peut dire universitaire, un petit peu, sur ce que tu as entendu ?
Ça me donnait beaucoup de crédit, peut-être. Mais j'ai trouvé ça super comme podcast, vraiment. Et... comme tu disais, je pense que la réception d'un objet artistique et théâtral, en fait, permet de s'approprier une seconde fois. Et du coup, le fait de pouvoir en discuter et échanger ensemble, ça amène une vraie deuxième réception du projet. Et aussi, pour rebondir sur ce que Marie disait, je trouve ça super intéressant, en fait, de partir du récit de l'intime pour après aborder des thématiques plus globales. Et je trouve que c'est un chouette levier à l'apprentissage. Donc, c'est vraiment un très chouette projet et super... super chouette d'avoir accès au retour des élèves. Donc voilà, merci.
Et voilà, Inch'Allah pour le concours Andromaque. On verra, on va finir le cycle demain et puis affaire à suivre. Et puis on termine pas encore le théâtre à l'émission, étant donné qu'on va avoir une fiction radiophonique en direct de l'équipe du B118 un peu plus tard dans l'émission. Donc on aime beaucoup mêler les genres. Et c'est vrai que c'est audacieux de faire cette fiction en direct. Il y a des questions d'écoute, des questions de partage, etc. qui se posent. Et donc, c'est le laboratoire Radio Marie-Christine. On installe un peu nos micros partout, dans les écoles, dans les maisons de quartier. Et on voit un peu ce que les Lacenoises, les Lacenois ont raconté ensemble. On a beaucoup parlé. Moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est une pause musicale. Pour ça, il faudrait convaincre Jean-Luc, pardon, qu'on veut écouter son morceau. Mon Dieu, attends. Oh là là, je fatigue. Il est vraiment temps de faire une pause musicale. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Faites du bruit pour Jean-Claude. Allez, ça va. Alors, un petit mot sur le morceau avant. Tu nous as déjà dit, Jean-Claude, que tu chantais en même temps qu'écoutais la musique. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Est-ce que c'est une chanson ?
C'est une chanson sur l'été, tu vois, quand les roses fleurissent, tu vois.
Quand les roses fleurissent.
Les filles sortent.
Les filles sortent.
Voilà.
Sur le parvis de la place Saint-Lambert.
Et je vais donner un petit truc. Hein. Si tu as un ordinateur à la maison, hein, tu mets une chanson à l'ordinateur, tu mets la chanson. Hein, et alors, ton smartphone, tu l'ouvres, tu enregistres ta voix. Et tu vas voir que ça fait bien. C'est pas comme dans un studio, hein, mais ça va bien. Tu vas écouter la chanson que j'ai faite, tu vois.
Et on va faire ça maintenant.
Mais je n'ai pas des casseroles, ça va. Hein.
C'est parti.
Quand les roses fleurissaient, sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Puis les roses se fanaient, rentraient les filles. Pour passer dans le doux écrin, le temps des flocons. C'était charmant. C'était charmant. C'était charmant. Le temps des roses. Quand on y pense. Aux pierres closes. Les roses d'aujourd'hui sont artificielles et les filles vont cueillir des fleurs été comme hiver. Elles ne supportent plus l'ennui, ces demoiselles. Elles se griment le corps et le cœur et vont prendre l'air.
On peut applaudir Jean-Claude. Ça a été beaucoup de négociations pour que Jean-Claude accepte de diffuser son morceau sur Radio Marie-Christine. Tu coûtes très cher, il coûtait très cher. Hein. Prends le micro, voilà.
Comment il coûte très cher ton micro?
On a dû payer beaucoup d'argent pour ça. Voilà.
Ah, dis rien du tout.
Les tarifs de Jean-Claude sont...
Les jeunes, là, vous embêtez. Il faut chanter quand vous êtes dans le parc. Tu chantes. Il faut chanter. Et ça fait... pour moi, un vieux comme moi, hein, ça fait travailler ma mémoire.
Et voilà.
Et le souffle. Et comme j'étais un zéro à l'école, je deviens plus intelligent quand je suis vieux, quand j'étais jeune. C'est vrai ça. Hein.
Jean-Claude s'adresse en fait à encore plus jeunes parce qu'on a été rejoint donc par l'école des devoirs du centre culturel de Jette.
Ah voilà.
Donc c'est Leïa, Alessia, Nusaïba, Jinen, Sofia, Yasmine et Reda. Est-ce que j'ai bien prononcé vos prénoms?
Oui.
Presque. Non. Alors vous pouvez corriger. Alors qui j'ai mal prononcé? Vas-y. Tu peux prendre le micro. À toi.
C'est pas Leïa, c'est Leïla.
Leïla. Ok. Voilà. Comment ça va tout le monde?
Bien.
Ouais.
Bien, ça va.
Vous avez apprécié la musique de Jean-Claude?
Oui.
Ouais, elle était bien. Ouais.
Oui.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui faites de la musique?
Non,
personne.
Non.
Donc voilà. Jean-Claude, tu peux prendre le micro. Hein. Voilà, comme ça on t'entend bien.
Il faut faire la musique. Il faut faire. Parce que quand tu trouves pas les mots, hein, avec la musique, tu sais t'exprimer. Tu vois? Moi, je voulais jouer à la guitare, hein, mais je suis pas assez patient. Moi, je vais jouer avant d'apprendre. Ça va pas, hein. Mais chanter, si tu sais chanter un peu, ça va.
Et alors, qui a envie un peu... qui veut nous présenter le groupe? Qui veut nous présenter le groupe? Allez-y, partagez-vous le micro.
Nous, on est l'école des devoirs, le centre culturel de Jette. Mmh. Et on fait nos devoirs et parfois on fait des activités.
Ah, Matt, t'as un micro aussi, ouais.
On fait aussi nos devoirs. On fait plein de choses. On fait des sorties. On fait plein de choses. On aide les animateurs aident les enfants à faire les devoirs. On fait aussi des jeux de société. On fait un peu de musique. Avec les instruments, on joue dehors, on fait des cabanes et tout et tout.
Vous faites quand même un peu de musique alors, c'est ça? Quel genre de musique?
Avec la guitare, avec un tambour, avec je sais plus comment on appelle, une clarinette.
Voilà, si vous cherchez une voix, vous avez pu écouter celle de Jean-Claude, très douce. Ah non, j'insiste et je me tourne vers l'équipe de la maison de quartier Rotonde, Nizrine, Ould, Louis, est-ce qu'on n'organiserait pas avec Jette voilà, des ateliers musicaux? Ça peut être sympa ça. Ould?
On est partant, voilà. Et je pense que les aînés ont le devoir de transmission, de la transmission. Ah. On avait déjà discuté ça parce qu'on organise toujours un groupe de paroles. On a abordé pas mal de sujets. Je pense qu'on avait parlé, donc j'ai l'idée, on va parler des devoirs de la transmission. Mm-hmm. je pense que voilà, ce sera vraiment avec grand plaisir, avec grand plaisir. Que, voilà, intergénérationnel. Ouais. Voilà.
Cette transmission, on l'a déjà bien amorcée lors de cette émission. Ça peut se poursuivre, on sert à ça aussi, nous, en tant que radio de quartier, à créer des liens, voilà, à se rencontrer, à donner l'envie de faire d'autres choses ensemble. Et je pense aussi que vous avez fait un petit peu de radio il n'y a pas longtemps. Oui, qui veut nous raconter la démarche, Reda, vas-y.
On faisait de la radio, mais on ne savait pas comment bien le faire. Du coup, c'était un peu raté.
Il ne faut pas dire ça, hein.
Enfin, non, c'était bien. Mais si on savait mieux le faire, ce serait encore mieux.
C'est ça. Et vous étiez accompagnée par Eloane, votre animatrice.
Oui.
C'est ça. Bah, pour te donner une idée, par exemple, là, on a écouté un podcast réalisé avec Bruxelles 2. On salue d'ailleurs Flore, qui a dû partir. Donc, merci Flore, à bientôt. Et ben voilà, pour te donner une idée, par exemple, c'était 10 minutes que ça a duré le reportage. Et pour ça, on avait une heure de son. D'accord ? Donc c'est un peu comme dans la cuisine. T'imagines que tu prends 10 kilos de légumes et au final, tu n'as plus que 1 kilo et c'est les 10 minutes. Donc c'est pas raté, mais ça fonctionne par essai-erreur. Nous-mêmes, on est très mauvais à la radio et on s'améliore de live en live. Et donc voilà, ça va continuer. Vous avez encore envie de faire ça ?
Oui, on a encore envie de le faire. C'était chouette, c'est bien, on s'amuse.
Et je me demande si on n'écouterait pas, bah, du coup, ce que vous avez fait. Comme ça se présente, comme ça, on sait un peu de quoi on parle. Est-ce que Thomas, tu es... donc je parle à mon technicien Thomas. Le podcast qu'ils ont fait sur l'école, numéro 6, on l'a en stock. On va écouter le résultat ensemble. C'est parti.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau podcast.
L'école.
De devoirs.
Là, on va commencer, on va parler de l'école.
J'aime pas l'école.
T'aimes pas l'école ?
Ouais. T'as travaillé ?
J'aime bien l'école parce qu'il y a des profs qui sont gentils.
Moi, ce que j'adore, c'est les profs. Ils sont hyper gentils et quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, ils interviennent et parfois ils crient, mais pour des raisons normales, appropriées.
Les enseignants, ils font que de mettre des mots dans le journal de classe.
Les enseignants, ils ne sont pas assez à l'écoute. J'ai l'impression que les profs, ils ne comprennent pas assez.
J'aime pas trop les profs qui sont méchants.
Alors j'adore l'école.
Est-ce que vous avez un truc que vous aimez dans l'école ?
Moi, j'aime bien ma prof. Je l'adore vraiment parce qu'elle est gentille, elle est normale. Elle crie parfois, mais vraiment pour des trucs normaux. Et voilà, j'aime bien les profs qui crient pour des trucs normaux, pas pour rien.
Arc-en-ciel, c'est une école, on fait de la musique. On doit chanter aussi. On doit mettre des musiques et aussi on doit danser. Ou alors on peut... parler.
Il y a des profs qui sont gentils. Quand on n'a pas d'affaires scolaires, ben, on a un bac où il y a toutes nos affaires. On peut retrouver des crayons, des marqueurs, tout ce qu'on veut. Et celui-là que je préfère trop, c'est la secrétariat.
Moi, j'aime bien la gym et les maths.
Et en classe, est-ce que vous avez parfois des gens qui vous embêtent trop et que vraiment ça peut aller jusqu'à l'harcèlement ?
Ouais, oui, beaucoup.
Et toi ?
Tous les garçons. Il y a un garçon qui est à côté de moi, qui me frappe, ça me déconcentre, qui me vole mes trucs.
Mais je trouve que je vois beaucoup de gens se frapper.
Pourquoi il doit y avoir une violence ? Ça sert à quoi ?
Bah, moi aussi, je me pose la même question.
Je trouve que c'est pas gentil. Je crois qu'ils ont besoin un peu d'attention parce que je trouve qu'ils font un peu des malins, comme on dit, et ils essayent de taper quelqu'un le plus fort, par exemple. Comme ça, ils tombent et ils deviennent populaires et tout.
C'est gratuit.
C'est de la violence gratuite.
Ben moi, ce que je pense que c'est un peu débile, vraiment. Pourquoi se battre ? On peut juste s'exprimer.
Ils essayent de faire leur malin. Ils essayent de se faire... remarqués par des gens. Je trouve ça pas cool.
Et vraiment, ceux qui frappent, j'ai pas compris, pourquoi vous faites ça ? Ça sert à quoi ?
Vous savez comment arranger cela ?
Comment ? Juste quand il y a un problème, vous partez en parler à votre prof et pour que tout ça s'arrête. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, ne lui redonnez pas. Parce que si vous le redonnez, ben, après vous allez continuer, ça va aller en bagarre. Alors que si, par exemple, il vous donne un coup, vous allez chez madame et puis madame va arrêter tout ça.
J'en ai parlé au chat, à la directrice, elle a rien dit.
Mais elle n'a pas répondu.
Ah ouais, ça c'est vraiment un cas répandu dans le monde.
Car là seulement à l'école, ben, c'est grave.
Alors vraiment, la violence
à l'école,
c'est tellement répandu dans le monde qu'on doit en parler.
Mais déjà, c'est la fin. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin. Merci. Et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
On peut arrêter?
Merci beaucoup.
Et on reprend, on arrête le podcast et on reprend en plateau, toujours en direct depuis la Rotonde, pour notre émission en avril. On applaudit bien fort. Leïla, Alessia, Nusaïba, Jinen, Sophia, Yasmine, Reda et Lohan, et aussi Romain de Grafoui qui a accompagné l'atelier. Moi, je voulais demander à Jean-Louis, qu'est-ce que tu avais pensé de ce que tu as écouté?
Ce sont des jeunes qui sont au courant de ce qui se passe dans leur école, bien entendu, hein, donc qui observent et qui ont l'occasion de critiquer et d'essayer de trouver des solutions pour remédier à tous ces problèmes actuels dans l'enseignement, c'est tout.
Tout à fait, la radio sert à ça, à un peu remuer ce qu'il y a à l'école. Justement, avec Ahmad, ça m'a fait penser à l'année dernière.
Oui, si sur le podcast qu'on a fait sur l'école. Et si je me rappelle, j'avais dit réussir, c'est pas lié juste à l'école.
Exactement. Oui, c'est ça. Toi, tu pensais que l'école, c'était pas forcément nécessaire, qu'on pouvait apprendre en ligne ou par d'autres manières. Est-ce que tu as changé d'avis depuis ou pas?
Un peu, oui.
Un petit peu, oui. Parce que Flore, donc, qui nous accompagnait tout à l'heure, te disait non, un écran ne remplacera jamais un vrai être humain.
Oui, je me rappelle.
C'est vrai? Et donc, ben, on va poser la question aux élèves de l'école de devoirs du Centre culturel de Jette. Donc, ben, déjà, bravo encore pour ce super podcast. Racontez-nous un peu comment ça s'est fait. C'était quoi la recette pour faire votre création sonore? C'est parti. Donc, toi, c'est Leïla, c'est bien ça?
Oui.
Leïla, voilà, on t'écoute.
J'ai pas trop compris la question.
La question, c'est raconte-nous comment vous avez fait ça, cette création sonore, ce podcast. Ça s'est passé comment?
Bah, d'abord, vu qu'on ne savait pas trop bien le faire, on a d'abord fait pour du beurre. On a essayé de faire quelques podcasts. Et après, avec tous ces podcasts, notre ami Romain nous a aidés à construire tout ça avec plusieurs podcasts. Mm-hmm. Et aussi, notre animatrice
Eloane
a aussi fait quelques montages.
Et alors, ça se passe comment un montage? Ça ressemble à quoi? C'est un programme? C'est sur ordinateur?
C'est sur ordinateur.
Ça ressemble un peu à une sorte de Lego alors? Un puzzle comme
oui,
ça?
Oui, voilà.
C'est ça. Un puzzle de sons qu'on assemble pour raconter une histoire. Et donc là, qui peut un peu résumer ce qu'on entend dans ce podcast? Oui? Vas-y.
Pour moi, c'est comme si on a commencé d'abord. Ils ont commencé d'abord à faire comme si c'était pas pour du vrai. Et puis ils ont commencé à demander aux autres. Ils ont commencé à les interroger, commencé à leur poser des questions. Et puis notre ami Romain, il a commencé à assembler les sons. Et puis, Eloane nous a fait tout écouter. Elle nous a dit si on aimait bien ou si on n'aimait pas. Et puis, on a donné notre avis. On a commencé à mélanger plusieurs thèmes. Et voilà.
Eh ben, magnifique. Et alors, je vais poser à ma voisine de gauche la question. Comment tu t'appelles?
Sophia.
Sophia, tu as participé aussi à tous ces ateliers?
Oui.
Et ça t'a donné des envies de faire d'autres projets comme ça pour la suite?
Bien sûr.
Ouais. Quel genre de projet?
Faire des vidéos, des sons, et tout ça.
Ah ben ça va, voilà. Et on retient l'idée de faire ça aussi à la Maison de Quartier Rotonde. Et où justement, avec Jean-Claude et avec Agnès, Arlette, Elisabeth, on a fait un lexique du bruxellois dans ces lieux. Est-ce que je me tourne vers la nouvelle génération? Vous savez ce que c'est le bruxellois? Oui, certains lèvent le doigt, vas-y. Tu peux un peu nous dire ce que c'est?
Le bruxellois, c'est l'ancienne langue de Bruxelles.
Exactement. Ahmad, tu connaissais ça, l'ancienne langue de Bruxelles?
J'ai entendu quelques mots.
Quelques mots. Bizarre. Voilà. Et vous connaissez des mots, les enfants, en bruxellois?
Non.
Non, ça, ils vont peut-être vous venir. Ils vont peut-être vous venir. Je propose qu'on écoute. Oui, on a aussi Manu et Balthazar qui sont en plateau. Coucou.
Coucou.
Si on te demande des mots en bruxellois, qu'est-ce qui te vient?
Tout à l'heure, on en a entendu un. C'était Zot, je crois.
Exactement, Zot. Exactement.
Ouais. C'est ce qui veut dire un peu fou, quoi.
Exactement. Et il est d'ailleurs repris dans le lexique, je pense, qu'on va écouter maintenant. C'est parti.
Lexique du bruxellois.
Allez, allez. Épisode 2.
Il y a des mots bruxellois qu'on ne sait pas traduire.
Si le ça, ça veut bien tout dire. Hein. Si le ça, ça veut dire pantoufle de travers. Mais c'est des insultes.
Ah oui, j'en ai beaucoup. Mais ça, je n'ose pas dire. Hein. Toi, tu es un vrai bruxellois. Vous êtes un echt bruxellois.
Non. Yeah. Parce que je suis venu à 3 ans durant le Luxembourg.
Zegt dat niet Frans?
Nee, ik spreek niet Nederlands. Ik spreek Frans.
Goed, Rena, in Brussel spreken, ja of nee?
Maar nee, ik spreek niet Brusselair, nee.
En wat zit er dan niet? Maar u bent hier voor Vlaams te Brussels te spreken.
Oui, maar tu racontes ça des Bruxellois, non, hein, die. Ja,
doet die te zien, vreer, hè?
Allez, zeg. Waar zit er maar pauske?
Je bent een echt biche voor het moment.
Oei, oei. On est Wollenbeck, on se lâche. En avant tout, hein?
Un Wollenbeck, c'est un bac plein. Mais bon, ça ne veut rien dire.
Non, ça veut rien dire.
Ça veut rien dire.
La biche.
Biche.
Ma biche. Biche.
Dat is een echt biche.
Hé là, tu peux pas dire ça de moi. Hein?
Petite biche.
Une biche.
Gentil. Dag, ma ratteke. Ça veut dire mon petit rat.
Oui, oui.
Oui, mon papa m'appelait Ratteke. Et j'avais une tante, Wallonne, elle m'appelait Dagmar Krotteke. Je m'appelle Elisabeth, je suis née à Saint-Gilles, et lorsque j'avais 9 mois, je suis venue habiter rue Émile Wouters ici à Laeken. Mes grands-parents parlaient français, bien sûr, mais ils parlaient également bruxellois. Je parlais bruxellois avec mon papa. J'ai parlé bruxellois français avec mon mari. Finalement, on ne savait plus si on se parlait en français ou en bruxellois. On se mélangeait.
Le bruxellois, moi j'ai un copain yougoslave, on a été à l'école ensemble, un yougoslave. Hein, on entendait vraiment qu'il venait de Bruxelles. Oui, hein, viens un peu ici, Meneke. Hein, tu vois, c'est l'accent. Il ne faut pas parler en bruxellois parce que les gens ne comprennent plus.
Tof. Tof, tof, tof.
Un toffe-pays. Tu es un chouette quête.
Très chouette, allez, un toffe-pays, allez.
C'est le pays qui nous interview. C'est un toffe-pays. Mais je ne connais pas beaucoup, hein. Mais je trouve qu'il est toffe.
Oui, hein? Il est toffe, oui.
Et les masques, ils sont aussi toffes, là. Ils ne disent rien.
Un bunch.
Plaire à quelqu'un. J'ai un bunch.
Oui. Un bunch, c'est avoir le béguin.
Oui, voilà. Avoir connaissance de quelqu'un.
Qu'on aime bien.
Oui, qu'on aime bien, oui.
Frouchelaire. C'est quelqu'un qui chipote à tout, mais sans rien vraiment faire. Qui n'est pas toujours très capable. Alors on dit, est-ce dans le frouchelaire? Le frouchelaire ou une frouchelisse?
Il frouchelle avec les filles.
Ah voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est le jour, c'était un frouchelet avec les masques.
Frouchelet et couchelet, c'est pas la même chose.
Astute, ça c'est difficile à dire ça. C'est un astute, voyez, il voit d'un astute, c'est un autre fou.
Hein? Et des outkestuken.
Tu m'as foutu un peu astute, tu m'as fait.
Oui, c'est pas quelque chose, c'est un embrouille.
Oui, c'est une embrouille astute, tu m'as fait astute. Oui, c'est un. Ça veut dire plusieurs choses à la fois, hein? Astute, hein?
C'est des ganzivraires. Un zivraire, c'est quelqu'un qui parle sans rien dire de spécial.
C'est quelqu'un qui dit des bêtises,
qui dit des choses.
Voilà.
Dit-il.
C'est comme nous autres.
Lui, c'est un zivraire, voilà, pas moi.
C'est moi.
Moi, je dis pas qu'il est le zivraire, mais suivez mon regard.
C'est pas un saligo, ce pays. Hein. Regarde, notre ami Sergio, hein, Il va dire esquive strut. Il va pas savoir ce que ça veut dire.
Comment, oui, mais... je sais pas. Je sais
tu
pas
sais ça. Dis-moi un peu.
Je n'en sais rien.
Esquive strut. Aïe, 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 aïe. Voilà.
Lexique du Bruxellaire. Une création sonore réalisée en partenariat avec la
Maison de quartier Rotonde.
La Maison de la création site Ancienne Gare dans le cadre de Radio Marie-Christine. Avec les voix de
Arlette,
Elisabeth,
Jean-Claude,
un peu moins fort,
Jean-Claude,
Sergio.
Et voilà, on est de retour en direct pour notre émission. Je propose qu'on refasse un petit tour de table, tiens, pour voir un peu qui est encore avec nous en plateau. Je me tourne vers toi, ton prénom, et tu peux nous dire ce que tu veux, ton âge, où tu habites, ta couleur préférée, c'est comme tu le sens.
Je m'appelle Sophia, et ma couleur préférée, c'est le noir et le blanc et le rouge.
Ok, ça en fait plusieurs, mais ça fait des jolis tableaux, hein, perspective pour les ateliers. Moi, c'est Lionel, hein, donc c'est le vert, ma couleur préférée.
Comment tu t'appelles, toi ?
Ginelle.
Ok. Et c'est quoi ton animal préféré ?
Je sais pas.
Et ta couleur préférée ?
Noir.
Noir. Comme le micro, ça tombe bien. Moi, c'est Balthazar. Et ma couleur préférée, c'est le bleu.
Moi, c'est un mal. Ma couleur préférée, c'est le noir aussi.
Moi, c'est Leïla. Leïla. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Et j'adore les panthères.
Leïla qui est habillée en bleu, d'ailleurs. Voilà.
Je m'appelle Alessia, ma couleur préférée c'est bleu, voilà.
Mmh, comme ton micro.
Je m'appelle Reda, j'ai 12 ans, ma couleur préférée c'est le rouge et j'aime les chats.
Ouais, et tu es aussi habillée en rouge, ok, donc ça ne triche pas. Moi je suis habillée en vert aussi par ailleurs. Ouais.
Je m'appelle Yasmine, ma couleur préférée c'est le bleu et le vert et le noir.
Bonjour, je m'appelle Nusaïba. Ma couleur préférée, c'est le noir et le blanc.
Est-ce que la couleur préférée de Marie sera le jaune ? Suspense. Donc.
Tout à fait.
C'est vrai ?
Bravo, oui.
Ok, ben voilà. Jean-Louis ? Je dis ton prénom du coup, mais l'idée était de faire un tour de table et donc de te présenter peut-être la couleur préférée ou quelque chose que tu veux nous raconter de toi.
Difficile. Bon, question de couleur, je ne suis pas très catégorique en fait. Je peux très bien m'habiller en vert, en noir, en rouge aussi. Je n'ai pas vraiment une couleur préférée en fait.
Moi, Jean-Claude, c'est le vert. Le vert, ça repose et le vert, j'espère. Hein.
Exactement.
Tu vois ?
Et donc Jean-Claude, on a entendu ta voix sur ce qu'on vient d'entendre, à savoir le lexique du Bruxellaire. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui s'est passé dans cette maison de quartier quand on a fait ces ateliers ? Qu'est-ce que c'était ? Avec qui on était ? Quelle ambiance il y avait ?
Ben avec Sergio, Agnès, hein, et la reine Elisabeth. Hein.
Exactement.
Et Sergio, c'est un Italien. Hein. Bon, il est longtemps ici à Bruxelles, mais on fait le con. Hein. Tu sais, on peut faire le con. Parce que quand tu deviens vieux, tout est permis, tu vois. Et Sergio et moi, on déconne, on raconte des histoires et on rit. Allez, on est des vieux, hein, mais on s'en fout hein, qu'on est vieux.
Oui, et parfois difficile à discipliner. Hein,
oui, ça c'est vrai. On ne doit plus obéir aux professeurs maintenant. Hein. Et quand je me regarde dans une glace, j'ai peur de moi. Quand je me vois, quand j'avais 18 ans, on dit quelle tête qu'on attrape, ben, dit, quand on devient vieux.
Non, mon l'élégance, Dieu, l'élégance, je dirais.
Oui, l'élégance, mais ben, je préfère avoir ta tête que la mienne. Hein, dit.
Hein? Si tu veux, on échange, mais...
Voilà.
Et Jean-Louis, t'as plongé un petit peu dans ce bruxellaire. Est-ce que c'est une langue que tu connais, que tu as pratiquée, qu'on parlait chez toi hein?
Ben, on la parlait pas chez moi en fait, mais bon, le bruxellois ça me dérange pas pour la bonne raison que je me suis documenté. Bon, ben, j'ai été assisté à des spectacles en bruxellois d'ailleurs, au théâtre de Thônes entre autres, avec toute une plusieurs générations de Thônes.
C'était quoi alors ce spectacle de Tone? Est-ce que tu peux un peu nous raconter quand on poussait les portes de ce théâtre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe?
Il y a des marionnettes qui pendent au plafond, bien entendu, des marionnettes qui servent pour les spectacles. Et alors, il y a des adaptations de pièces classiques, comme le Cite et comme l'Odyssée. Enfin, oui, des pièces qui sont vraiment adaptées pour les marionnettes.
C'est ça.
Et alors, héros qui présente ça, il y a Walsh, qui est très connu.
Jean-Claude, tu voulais réagir?
Oui, moi, j'ai une pensée pour le grand Jojo. Ça, c'était le quête de Bruxelles, ça. Hein.
Exactement.
Ça, c'était vraiment le type. Hein. Et Fonck, là, tu vois, il vient faire de la radio aussi.
Jean-Luc Fonck.
Ça, c'est aussi. Tu vois? Ces deux-là, moi, je les représente comme... Allez, les Bruxellois, quand même. Hein.
Stella était Bruxellois aussi, alors. Je ne savais pas ça. OK, voilà. Et alors, je pense que parmi les camarades de l'école des devoirs, vous avez des petits papiers qui ont circulé. Est-ce que quelqu'un peut en lire un? C'est parti, ouais.
C'est difficile à lire,
ça. Hein? C'est une langue étrangère.
C'est une langue étrangère, comment on prononce?
Ça vient de la lune ou quoi? Hein?
C'est ça.
Comme tu le vois.
Zouinze.
Les gosses de la télé étaient
très... Zouinze, ah ben voilà. Alors, ça veut dire quoi à votre avis, la zouinze? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire parmi vous?
Je sais pas.
Compréhension de l'audition. Balthazar?
C'est pas la fête.
La fête, Jean-Louis, Jean-Claude, vous confirmez, c'est quoi la zouance, la définition?
Oh, moi, c'est la fête et blaguer. Hein.
Et blaguer.
Hein, il ne faut pas se prendre au sérieux, c'est ça. Hein.
C'est ça, la zouance.
C'est la façon de prendre les choses tragiques ou voilà. Comiques.
C'est ça, voilà, ok. Voilà. Alors, dans votre langue, enfin, pour les plus jeunes, il y aurait un équivalent de ça? Comment on dit blaguer? C'est pas kahka, par exemple, Reda?
C'est dahka.
Dahka, ok. Que tu définis comme?
Rigoler.
Rigoler, ok. Donc, la zouance, c'est le dahka de Reda.
Okay. D'où ça vient cette langue, là, dahka? Ça vient de Mars ou quoi?
Non.
Dahka, mon Dieu.
Jupiter, il a dit.
Jupiter, voilà. Jupiter. Mars versus Jupiter.
C'est plus loin encore, ça. Hein. Tu vas en fusée, là. Hein.
Leïla, tu as aussi un mot devant toi, Leïla. Ou Alessia? Alessia, on t'écoute.
Stomp.
Stomp, ok. Des idées de succès, stomp, ouais. Toi, au micro.
Je pense que ça veut dire triste.
Triste, stomp serait triste. Leïla, autre interprétation.
Stop.
Stop, stomp voudrait dire stop. Toi, ouais.
Moi, je voulais dire stop.
Ok, donc stomp serait triste ou stop, Balthazar.
C'est quelque chose que vous avez déjà mangé, je pense.
Oh, ok. Ah. Oh.
C'est quoi?
Oui, vas-y.
Des bonbons?
Non.
Des bonbons. Ah, est-ce que Jean-Louis, un stomp, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans un stomp?
Dans un stomp, on trouve généralement des légumes et des pommes de terre.
Des légumes, des pommes de terre. Est-ce qu'on met un peu de viande dedans?
Oh, je sais.
On peut y mettre la saucisse éventuellement.
C'est ça.
Ou du boudin.
Mais en fait, Bruxelles était une ville... un peu pauvre, on va dire. Et donc, on ne mettait pas non plus de la viande noble, je pense, dans le stomp. On mettait, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on mettrait comme viande, typiquement?
Comme il a dit, du lard, du boudin, de l'oisère. Hein.
C'est ça.
Hein. Vous savez que maintenant, hein, vous mangez comme il faut. De mon temps, hein, enfin, 77 ans, je vais dire 8 ans, on allait chercher des poulets à l'abattoir, tu vois? À l'abattoir. Et c'était la viande du dimanche. Hein. Et maintenant, ça devient la viande de tous les jours. Le poulet, c'est le moins cher. Tu vois, avant, on ne mangeait pas tous les jours la viande, nous autres. Hein. Rien que le gaillard que je suis devenu.
Poulet frites compote, Jean-Luc?
Ah oui, non.
Ouais. Jean-Louis, pardon.
Oui, poulet frites compote.
Ça, c'était le plat...
Du dimanche. Et en semaine, les boulettes à la sauce tomate.
Et la carbonade flamande, t'as dit?
Et les carbonades flamandes.
Voilà, hein. Ça. Et le chicon au gratin? Hein, c'est vrai, hein?
Et qu'est-ce qu'on mange par à Jette, alors? C'est quoi qu'on sert chez vous? Oui, vas-y. Dans le micro, ok.
Moi, généralement, je mange presque tous les jours de la viande. On mange aussi, par exemple, je sais pas comment on appelle, mais c'est une espèce... C'est, c'est, un,
c'est un plateau. À l'intérieur, il y a de la salade et du riz et tout et tout.
Une sorte de mezzé, on peut dire. Salade, riz, un plateau. Chez Balthazar, qu'est-ce qu'on mange? Les invendus, les récupérations?
Non, mais c'est ce qu'on nous donne.
Voilà. Non. Donc c'est un squat. Tu peux un peu dire en quelques mots ouais. la pratique du B118, c'est intéressant.
Ouais, d'accord. Nous, il y a des magasins qui nous donnent ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Les magasins du quartier. Et du coup, on passe avec un chariot. On va récupérer les fruits et légumes. Et avec ça, on cuisine. Voilà. On cuisine autour de la chose. Hein.
Oh. Leïla
Moi, on mange plus du riz. Parce que dans mon pays, on mange beaucoup de riz. Et si vous ne connaissez pas, on mange du foufou.
Ah non, ça, on ne connaît pas. Du foufou.
Du foufou.
C'est quoi du foufou?
Vas-y. Du foufou, c'est une espèce de pâte jaune avec de la banane. Et il y a aussi la sauce, je sais plus, mais je m'en rappelle plus, mais il y avait une fille dans ma classe qui nous avait montré.
Oui, à côté de moi, t'as la réponse peut-être?
Oui, c'est une pâte, c'est presque comme la purée, ça ressemble à ça, mais c'est que ça colle. Tu prends comme ça et tu mets dans de la sauce piquante.
Ok, on a une vision de plus en plus claire du foufou. Reda?
Nous, chez nous, moi j'ai du couscous, mm-hmm. du tagine. Tout ce qui est bon.
Mais pour l'instant, je pense que c'est le ramadan pour certains de ta communauté. C'est ça. J'en viens vers toi, Leïla, parce que tu as un petit mot, un petit papier qu'on n'a pas encore dit. Donc on va revenir, après avoir cet épisode culinaire, vers le Brusselair. Vas-y.
Vogelpink.
Vogelpink, je pense. Vogelpink.
Ah oui, Vogelpink. Ah,
alors, les amis, qu'est-ce que ça veut dire, Vogelpink? Vous avez des idées? Ouais, vas-y.
Du veau,
ok. Donc le Vogelpink serait du veau. D'autres idées, Alessia? Prends le micro de Leïla, peut-être. Voilà.
Non, ouais. Je dirais du vent.
Du vent. Le Vogelpick serait le vent qui siffle sur le plateau du Hazel. Encore d'autres idées? Vogelpick pour toi?
Quelqu'un qui vole?
Un voleur. Un Vogelpick, c'est un voleur.
Ça se rapproche. Hein.
Ça se rapproche. On chauffe un petit peu. Marie, peut-être. Marie, c'est un peu triché parce que tu as participé au lexique, mais vas-y. Peut-être que tu ne l'avais pas celui-là. Ça datait du premier atelier. Donc,
je crois que c'est le bec d'oiseau, le Vogelpick.
Le Vogelpick, c'est le bec d'oiseau.
Tu vas prêt.
Ok.
Presque prêt.
On approche. Prêt. C'est quoi alors, Jean-Claude?
Un jeu de fléchettes, le Vogelpick. Voilà. Tu vois? C'est un rond avec plusieurs cercles. Alors, tu dois jeter dans le cercle le plus petit. Ça, c'est le Vogelpick. Tu le savais, toi?
Oui.
Sérieux?
Oui.
Leïla, il le savait.
T'as pas un croix sur ton front? Mais ça se peut que tu le sais. Mais où t'as entendu ça, toi?
J'ai imaginé.
Elle a imaginé.
T'as imaginé? T'imagines bien. Hein.
Mais parce que vous avez dit qu'elle est presque alors.
Ah, c'est voilà, ça. Voilà, voilà. Non, on avait le bec, on avait un truc crochu.
Ça, Vogelpick. Oui.
Et ma camarade de droite a encore un petit mot. Est-ce que tu veux bien le lire? Vas-y.
Sun.
Il est très compliqué celui-là.
Ouais, ça c'est.
Belin.
C'est Snot, tu vois, Snot Bellen. Snot Bellen.
Snot Bellen.
Qu'est-ce que c'est que ça, ouais? Leïla?
Très belle.
Très belle. Tu es Snot Bellen. Tu es très belle. D'autres idées, ouais?
Magnifique.
Magnifique, oh Snot Bellen.
Ça veut dire beau.
Beau, ouais. Et toi?
Joli.
Joli. Jean-Louis, Snot Bellen, est-ce que c'est cet adjectif ou est-ce que c'est autre chose? Vas-y, dans le micro.
C'est ce qui pend au nez.
Donc malheureusement...
Un Snot Bellen, hein, c'est que quand un gros rhume, ça coule. Tu vois, c'est un son de belle ça. Qu'est-ce que tu te trouves joli quand ça coule de ton nez?
On peut s'indigner tous ensemble. Bah. Non mais ils sont vraiment skives, ces bruxellois.
Mais voilà.
Donc voilà, lexique du bruxellois, une affaire à suivre. Marie, tu peux aussi en raconter un petit peu. Donc avec la Maison de la Création Site Ancienne Gare, on a lancé ça. Tu peux un peu dire où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va.
Eh ben, donc oui, c'est une sorte d'enquête à la rencontre des personnes qui pratiquent le bruxellois, qui le parlent, et on essaye de transmettre cette langue que moi-même je ne parle pas, donc je découvre en même temps. Et où on en est? Là, on a fait trois épisodes, si je ne me trompe pas, deux.
On en a fait même peut-être quatre, mais il y en a deux de près, et puis après, avec toutes vos histoires, on va encore en servir pour les prochains lives, tout à fait.
Ouais.
Et pourquoi pas, j'en parle à Margot, en faire un petit livre, un petit lexique, voilà. Oui, t'as ta camarade de gauche, voulait.
J'ai une question. En fait, chaque fois, est-ce que par exemple, si on veut refaire un podcast, Mm-hmm. On pourra revenir ici.
Ah, bien sûr, je pense que... Après, nous, on fait une émission en direct par mois, si tu veux. Une fois par mois, on fait une émission en direct. Et le reste du temps, c'est des ateliers. Et donc, la porte est toujours ouverte et vous êtes toujours les bienvenus. Et donc, d'office, revenir ici ou peut-être que ce sera ailleurs dans Bruxelles, enfin dans Laeken plutôt, parce qu'on est un peu itinérant. Tu vois ce que tu vois là? En fait, on va parfois dans des magasins, chez le glacier, dans le centre, la maison de la création, on s'installe. Mais bien sûr, et d'ailleurs, vous allez encore rester avec nous. Ce que je propose, c'est de faire une petite pause musicale en écoutant, en replongeant dans 58. Et donc, c'est Brussels Blues de Benny Goodman qui résonnait lors de l'expo. Et ensuite, il y aura la fiction sonore du B118.
Brussels, dig that Brussels bell. And I'm going to Brussels, dig that Brussels bell. Big shot, little shot, and the square's gonna be there. They're gonna jump and shout, and we're gonna have a real good time. We're gonna jump and shout and have a real good time. Benny Goodman gonna swing if he doesn't change his mind. We're gonna rock this joint, we're gonna rock. We're gonna roll the joint, we're gonna swing the joint, we're gonna rock this joint, we're gonna rock. We're gonna swing this joint, we're gonna rock. We're gonna rock the fair, we're gonna rock. We're gonna jump the fair, we're gonna. Nothing to lose. Didn't spend a dime and I ain't got nothing to lose. Yes, and left me with those Brussels blues. We're gonna rock this joint, we're gonna rock. We're gonna roll this joint, we're gonna swing this joint, we're gonna rock this joint, we're gonna rock. We're gonna swing this joint, we're gonna rock.
Nous sommes toujours sur le plateau de RMC Radio Marie-Christine en direct de la Rotonde, en direct ce mercredi 3 avril et en rediffusion sur Radio Onda et sur Radio Panique si vous nous écoutez plus tard. Voilà, on avait un gros plateau, on a fait un gros changement de plateau, on remercie toutes les personnes qui sont là depuis le début de l'émission. Et puis là, ce changement de plateau, il a lieu parce que nous avons notre traditionnelle, comme tous les mois, fiction radiophonique. Manu, ça va le casque ? Il marche pas trop. Regarde, on a un autre juste à côté, si tu veux. On a plein de casques sur cette table. Et donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui se sont installées pour cette fiction. On retirera vos prénoms à la fin de la fiction. Tout va bien ? Vous êtes bien installés ?
Magnifique.
Oui. Magnifique.
Oui. Formidable.
Eh bien, on va vous laisser la parole.
Bonjour, jeune roi.
Donnez-moi vos déchets.
Qu'est-ce que tu cherches, petit?
J'ai les dents plus dures.
Règne le roi.
Jeune rat.
Nous sommes les rats de Boxtel.
Voici le résumé des épisodes précédents. Une grande clarté. Nous suivons dans les égouts de Bruxelles les aventures d'une bande de rats. Ils aiment manger des frites. Chez Raclette, qu'ils échangent contre de la poésie. La reine des rats a retrouvé ses enfants qui étaient chez leur tante, la danseuse des mots. Une nouvelle a fait grand bruit dans les égouts. La reine des rats a démissionné. Des discussions plus ou moins enflammées ont commencé pour savoir qui remplacera cette reine sur le trône. Pendant ce temps-là, un groupe d'animaux en visite au magasin Naya a surpris la dispute en ouvrant une grille d'égout. Certains voulaient avoir le fin mot de l'histoire, d'autres voulaient juste finir la visite. De rats se promènent dans les égouts, les conversations vont bon train.
On irait pas manger des frites.
Oh non, s'il te plaît, voici, ne parle pas de frites. Saman n'est pas encore de retour de ses vacances et Raclette est donc seule à servir et elle doit tout faire toute seule.
Et surtout, la friterie est fermée suite à un contrôle sanitaire. Saman va pouvoir prolonger ses vacances, il semblerait bien.
Effectivement, ils ont trouvé quoi? Des crottes de souris?
Eh non, des crottes de rats. Elle est bonne celle-là.
Je m'ennuie.
Ben, foi de rat, si j'étais reine des rats, je supprimerais illico les contrôles sanitaires.
Et c'est vrai d'ailleurs, la reine n'a toujours pas nommé qui la remplacera sur le trône.
Eh, vous entendez? Il y a du grabuge dans l'air. Approchons-nous et écoutons.
Curieuse. La petite bande s'approche et écoute ce qu'il se dit.
Sunny, il est pour moi.
Non, il est pour moi. J'ai toute ma famille qui viendrait y vivre.
Et moi, je voudrais être tranquille dans le calme et le silence.
Non, je viendrai qu'on m'embête plus. J'en ai ras le bol qu'on m'embête tout le temps. Et au moins, avec ma famille, ça va encore.
Et moi, je veux bien vivre seul. J'ai peur des rats que je connais pas. Ils vont me voler, abîmer mes affaires et les salir.
Mais c'est à... moi de le prendre, j'en ai marre de galérer. Maintenant que je l'ai trouvé, je le garde.
Et pourquoi ce serait à toi de l'avoir? C'est moi qui l'ai vu en premier, et toi t'es un radin. Tu le voudrais pour toi tout seul, alors que moi il y aura une famille dedans.
Et vous êtes combien dans votre famille?
On est deux, moi et Mr. K.
Et c'est qui, Mr. K? T'es sûr qu'il existe au moins? C'est pas ton ami imaginaire parce que ça compte pas.
C'est-à-dire que c'est mon cafard de compagnie, hein, mais c'est mon ami. Et toi, tu peux pas comprendre. Hein. Je suis sûr que vu que tu veux être seul, tu sais pas ce que c'est que d'avoir un ami. Voilà.
Alors ça, c'est vraiment méchant. Tu le méritais pas, ce nid. Tu es vraiment méchant. Il n'y a qu'un cafard pour être ton ami. Tu crois que c'est mieux?
La dispute continue et la petite bande s'approche des deux rats.
Mais qu'est-ce que c'est tout ce bruit?
on peut plus réfléchir tranquille.
En plus, t'es méchant, tu l'as fait pleurer.
Ouais, c'est lui qui a commencé.
Non, c'est lui. Il veut me voler mon nid.
Ouais, ça, comment ton nid? C'est mon nid d'abord.
Alors, c'est pour ça que vous criez?
Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour partager ce nid, je connais d'autres rats qui seraient d'accord de le partager et vivre ensemble.
Ouais, comme moi.
Et moi, on pourrait vivre ensemble.
En plus, c'est trop bien de vivre à plusieurs pour faire à manger, construire de gros trucs qu'on pourrait pas faire si on était tout seul.
Comme une plaine de jeux.
Ou un super grand véhicule pour qu'on aille tous ensemble se promener.
En parlant de tous ensemble, il m'est arrivé une drôle d'aventure. Je me promenais dans le parc et j'ai rencontré un très chouette écureuil. Il était tout seul et il cherchait un ami. Et il l'a trouvé, son ami. Je suis devenu son ami. Mais les animaux du parc ne voyaient pas notre abîmier d'un très bon œil. Ils me traitaient tous de sale rat. Du coup, bah, il est parti. Je l'ai revu par hasard un soir. Il se faisait poursuivre par un sale cabot et il est venu se réfugier pile poil dans un trou. Et ça tombait bien parce que c'était justement l'endroit qu'on avait choisi, ma bande et moi, pour passer la soirée. Quand le chien s'est retrouvé face à face avec tous ses rats, il a battu en retraite et il s'est sauvé la queue entre les pattes. Comme quoi, et c'est ce que m'a dit mon ami l'écureuil, l'union fait la force et ça marche aussi quand on vit à plusieurs.
C'est vrai que j'ai déjà entendu ça quelque part. Alors on se le partage, chéri. Ok, je veux bien, surtout pour la plaine de jeu qu'on va construire. Je m'y vois déjà et on pourra fabriquer dessus un hamac pour Monsieur K.
Oh yes, I love this project. It's so cool.
Oh oui, pour qu'il puisse se balancer tranquillement pendant qu'on s'amusera. Vous pouvez tous venir habiter avec nous.
Oh, me too? I can. Are you sure?
Moi, ça me va, mais c'est qui au fait ce Mr. K? Il fait pas trop de bruit, au moins.
Les rats pourront-ils vivre ensemble dans ce nid? Mr. K est-il vraiment celui qu'il dit être? Une rate peut-elle être vraiment amie avec un écureuil? Et qui remplacera la reine des rats sur le trône? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode, tous les premiers mercredis du mois sur RMC. Petit cheveu sur la soupe. On vous attend tous pour déguster et élire le meilleur potage à la fête de la soupe. Le 21 avril, sur le parvis de Notre-Dame de Laeken. Ouvrez bien vos yeux, vous y croiserez peut-être certains de vos rats préférés. À bon entendeur, salut.
Qu'est-ce que tu cherches, petit?
J'ai les dents plus dures
que la joie, Jean Rat. Nous sommes les rats de Boxstein.
Radio Marie-Christine.
À rapport, Polly et Marie-Christine.
On est de retour sur le plateau de Radio Marie-Christine. Merci, toute l'équipe. Alors, il y avait qui dans cette équipe de la fiction? Allez-y. Des rats. Qui étaient tous ces rats? Salut les rats. Manu.
Alors, donc, eh ben, nous avions donc Balthazar, narrateur, du coup.
Le narrateur.
Je viens de la trouver comme ça sur le pouce.
Et guitare.
Guitare.
Christ.
Nous avions Wassi, nous avions Ellie, nous avions Nono, nous avions moi, donc qui fait raclette. Nous avions Luc, nous avions Ansar et la guitare.
Ben voilà. Ça s'est bien passé?
Pour moi, c'était chouette.
Ouais. Moi aussi, ouais, j'hésite.
Pour toi, ça s'est bien passé?
C'était mieux.
C'était mieux. C'était mieux.
Ça, c'est intéressant.
C'est intéressant. Est-ce que vous avez pris du plaisir?
Oui.
Luc, tu prends toujours du plaisir dans ce projet de fiction?
Oui, parce que c'est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu difficile de répéter. Alors, c'est toujours un petit moment de panique quand on arrive ici. Et on a répété un peu devant la porte, donc ça a été. Mais c'est beaucoup d'impro.
Tous les mois, un nouvel épisode. tous les mois une équipe mouvante où vous êtes parfois 7, parfois 14, parfois... Comment ça se passe, Manu ?
C'est comme les rangs, en fait, on se multiplie. ça dépend. Non, c'est une blague. Non, mais en fait, c'est pas parce que le groupe en fait, évolue au fur et à mesure voilà, des épisodes, au fur et à mesure des répétitions. Et donc, c'est, voilà, nous sommes sans cesse une mouvance en pleine évolution. Mais oui. C'est très, très chouette.
Il y a aussi là, ce mois-ci, deux personnes qui ont participé aux répétitions, mais qui ne sont pas venues aujourd'hui. On espère encore attirer au live la prochaine fois. D'ailleurs, j'aimerais bien donner la prochaine date de répétition. Donc moi, il y a deux dates que je vois. Vendredi soir, il y a le repas de quartier dans la station de métro Boxtal. Donc on mange ensemble et j'aimerais en profiter pour capter déjà du son. Voir si ça va servir à la fiction ou à une autre case de la prochaine émission. Mais voilà, il y a un petit rendez-vous vendredi soir dans la station Boxtal à partir de 19h.
Quel vendredi ?
Ce vendredi, donc vendredi, oui, pour les éditeurs de Radio Panique, ça sera vendredi 5 avril. Et puis sinon, la répétition classique pour créer vraiment la fiction autour d'une table, moi je propose mardi 9 avril à 17h30 à la clé, donc au 118 rue Franzmann.
Et donc ça, pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent contacter, ils viennent direct au 118 rue Franzmann.
Oui, la sonnette marche, ça y est.
Ça y est, la sonnette marche, un grand portail comme ça. Voilà, à la clé B118, c'est un lieu où on est allé souvent avec Radio Marie-Christine. Ça fait partie de l'histoire de Radio Marie-Christine. Et d'ailleurs, on peut déjà l'annoncer que notre prochaine émission, le mercredi 1er mai, on la fera depuis le B118.
Tout à fait, avec plaisir.
Cool, tu confirmes, c'est bon, ça c'est fait. On pourra faire plein de choses, c'est pareil, s'il y a des gens qui veulent nous retrouver pour l'émission, donc on l'enregistre le premier mercredi du mois, donc ce sera le 1er mai, il fera beau, on sera bien, on sera dans le jardin.
Ah, j'espère.
Trop bien, il va bien le jardin ?
Le jardin va bien, il y a des gens qui ont commencé à planter des choses, ça change.
Trop chouette. Manu ?
Moi, j'avais deux petites annonces d'événements à faire.
Alors, attends, on va garder les annonces un petit peu pour après, parce qu'on a Reda, Leïla et je n'ai plus mon papier. Alessia, qui sont revenus autour du plateau. Est-ce que vous aviez déjà entendu une fiction radiophonique ?
Non, jamais.
C'est une première. Comment ça s'est passé, l'écoute ?
Bien.
Bien.
C'était drôle, chouette.
Donc, vous voyez, en radio... Vous avez fait donc du podcast en prenant la parole et en donnant la parole sur un sujet. Et ben on peut aussi faire de la fiction, donc faire un film radiophonique sans images où on s'imagine un petit peu tout ce qui se passe. Ça vous tenterait comme projet un de ces jours ?
Oui, pourquoi pas.
Un sujet déjà, une idée qui vous vient en tête ?
Non.
Non, c'est pas grave, hein, on a le temps d'y réfléchir. Manu, vas-y.
Alors moi, j'ai, du coup, pour rappeler donc la date de la fête de la soupe, du coup, de Laken. Donc ça sera le 21 avril, donc le dimanche de midi à 18h, si je ne me trompe pas, ou 18 ou 19h. Donc dégustation de soupe, élire la meilleure soupe, trouver la soupe mystère qui sera concoctée par la clé pour cette année, en partenariat avec d'autres personnes. Donc ça, c'était la première info. La deuxième info, c'est la table d'hôte. Donc la MJ Table d'Hôte, pour ceux qui ont la petite histoire, le MJ Festival, bon, cette année, ça ne sera pas un festival, ça sera une table d'hôte, voire un peu plus tard. Et donc, du coup, ça se passe aussi à la clé, donc où j'habite. Donc ça, c'est le 13 avril. Et donc, on va venir bien manger. Il y aura des concerts, des performances. Et donc, ça, on va dire, c'est à partir de 18h, 18h30. Et ça ne sera pas en mode trop tard, donc jusqu'à peut-être minuit, 2h du matin. Il y aura un événement sur Facebook, de toute façon, qui va suivre.
Merci Manu, les bons tuyaux. Bal, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Okay. Est-ce que quelqu'un autour de cette table veut rajouter quelque chose pour conclure cette émission ? Non ? Tout va bien ? Bah, nous, on a plein de remerciements à faire. Déjà, remercier toutes les personnes de la Rotonde qui nous ont accueillis. Il y a encore Louis qui est là. Merci pour l'accueil. On était bien. Remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Je suis désolé, je ne vais pas reciter tout le monde parce que ça fait quand même beaucoup de prénoms. On remercie Ali de Alpha Jean qui nous rediffuse en direct dans la rue Marie-Christine. On remercie l'équipe de Radio Panique qui nous rediffuse lundi prochain. On remercie Radio Honda qui nous diffuse maintenant le dernier dimanche du mois à 11h sur les nouvelles ondes DAB+, depuis le magnifique studio qui est dans le métro Boxtal. Ah oui, tu veux que je me taise en fait, Thomas ? C'est parce que j'allais l'oublier direct, il m'envoie du son dans les oreilles. On remercie Thomas à la technique qui fait un super boulot. même s'il envoie les jingles pas au bon moment. Hein. Merci Thomas. On remercie l'équipe de Bravo et l'équipe de l'atelier Grafoui qui nous accompagne dans cette aventure. Et puis c'est toujours un projet qui est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF. Et Lionel veut rajouter quelque chose ? Non ?
Non, mais on termine d'une certaine manière, hein. Toi-même.
Ben
tu
oui.
sais.
On termine toutes nos émissions en faisant quelque chose, c'est qu'on fait tous ensemble, collégialement, un bisou à Marie-Christine. D'accord ? Vous êtes prêts ? On va tous dire bisou, Marie-Christine, tous en même temps. 1, 2, 3.
Bisous, Marie-Christine.
Bisous Marie-Christine.